Allô, bonjour et bienvenue autour d'un nouvel épisode de Figures franco-allemandes, le podcast franco-allemand. Aujourd'hui, on parlera de la perspective et des préoccupations des personnes en situation de handicap en rétrospective des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, du sport inclusif et au-delà. Merci beaucoup à Timothée Delacôte, délégué général de FAS, la Fondation Agir contre l'exclusion, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Donc la première question, comment votre fondation a pu voir le jour et comment ses missions ont évolué au fil du temps ?
Alors, la fondation FAS, c'est une fondation qui est née en 1993, à un moment où la fonction de RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, était encore très peu présente. C'était un sujet qui était pas encore vraiment dans le débat public et on considérait que les entreprises d'une part et les acteurs de la solidarité d'autre part avaient des objectifs très distincts et qu'il n'y avait pas lieu de lier les deux. L'origine de FAS, c'est l'intuition de départ, c'est de dire que les entreprises, elles ont un rôle social, à la fois parce qu'elles sont recruteuses, donc intégratrices d'un certain nombre de typologies de personnes, y compris des personnes qu'on appelle issues de la diversité, pas des gens qui rentrent dans les cases, et puis aussi parce que dans les territoires dans lesquels elles sont implantées, par leur capacité à produire, par leur capacité à interagir avec des consommateurs, elles avaient forcément un rôle social et sociétal. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on est né, avec la volonté de se dire, allons chercher, nous, acteurs des solidarités, acteurs en fait associatifs ou para-associatifs, la capacité d'action des entreprises, évidemment la capacité financière d'action, c'est très important, c'est pour ça qu'on a, nous, un régime fiscal qui permet aux entreprises de nous donner de l'argent pour nous permettre de mener des opérations d'inclusion, et puis aussi la capacité humaine qu'elles ont. Et c'est ça qui nous intéresse le plus chez FAS, puisque depuis 30 ans, on mobilise les salariés des entreprises en mécénat de compétences, qui sont l'équivalent de nos bénévoles, sur nos actions. Donc, on a aujourd'hui 6000 entreprises partenaires et 8000 salariés en mécénat de compétences qui nous accompagnent au quotidien pour accompagner près de 400 000 personnes.
Très bien, ça nous donne déjà une perspective globale aussi du champ d'action de FAS. J'aimerais bien contextualiser aussi cet épisode, comme on va venir en rétrospective et on va aussi comparer les Jeux olympiques avec les Jeux paralympiques et comme on parlera des personnes en situation d'handicap, la question serait comment se sont déroulés les Jeux paralympiques et quel a été leur impact aussi à l'extérieur.
Alors là, je vais vous donner d'abord un avis personnel. Moi, je suis très surpris toujours de la structuration, je dirais, organisationnelle qui est hyper segmentée entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. C'est des organisations différentes, c'est des enjeux différents, c'est des modes de financement différents. Et j'avoue que moi, je trouve ça assez choquant. Mais en fait, il y a une raison très simple, c'est que les enjeux économiques sont pas les mêmes et qu'on sait qu'on ne donne pas la même lisibilité et visibilité, notamment en termes de droits télé et donc derrière d'enjeux économiques et donc de recettes pour les instances olympiques. Donc ça, c'est le premier constat peut-être qui moi me choque un petit peu en tant qu'acteur de l'inclusion. Ça, c'est la première chose. Pour autant, et pour positiver, ce que je perçois quand même, c'est qu'il y a un vrai cap qui a été franchi avec les Jeux paralympiques de Paris. Je pense que tout le monde l'a vu. Moi-même, pour avoir été présent à la cérémonie d'ouverture sur la place de la Concorde, au-delà de l'émotion que ça peut produire, c'était quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un statement qui était très fort de dire on arrête avec l'exclusion, enfin on essaye en tout cas d'enrayer les dynamiques d'exclusion et on porte un message de c'était passer de la discorde à la concorde, c'était ça hein, la cérémonie d'ouverture et derrière c'est aussi d'envoyer des messages très forts sur la perception qu'on peut avoir des différences avec quelque chose de qui a été très incarné, très charnel, le rapport au corps aussi pour des athlètes qui est très particulier. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que ça a été très réussi. Je constate aussi, avec beaucoup de satisfaction, pour y être allé aussi beaucoup, que les stades étaient remplis. C'est la première fois que les stades sont remplis. Quand vous avez, même pas en finale, mais en demi-finale, 80 000 personnes pour regarder des para-athlètes avec toute typologie de handicap au Stade de France à Saint-Denis, c'est la première fois que ça arrive, donc c'est historique. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à catalyser. Et je terminerai aussi sur les mots du président du comité paralympique qui ont été très très forts en proposant la révolution de l'inclusion. Évidemment, pour quelqu'un comme moi qui suis DG de la Fondation de l'inclusion, forcément ça résonne très positivement.
Donc, terminons sur une pointe positive. On l'a déjà abordé, la couverture médiatique au niveau français, mais aussi au niveau international. J'aimerais bien savoir en quoi l'étendue des JO a été bien supérieure à celle des Jeux para-olympiques et comment on pourrait remédier à ce point-là.
Je pense que c'est un sujet qui est compliqué parce que, alors, le premier enjeu, c'est encore une fois quand même la responsabilité des acteurs économiques qui, comme ils mettent de l'argent sur les JO, il y a un cercle, alors vertueux économiquement, mais vicieux du point de vue de l'inclusion, qui est que là où il y a potentiellement de l'argent, je mets de l'argent, donc il y a plus de visibilité, donc ça crée plus d'argent. Et c'est ce cercle-là qui, moi, me semble pas positif, ni pour l'inclusion, ni pour la planète. Entre nous, c'est une chose. Et l'autre élément, c'est quand même que si le sport a du retard dans la perception du handicap, c'est parce qu'il y a un rapport à la performance qui est pas réglé. On voit, hein, il y a eu cette tendance pour les athlètes paralympiques, quand on veut les positiver, et parfois avec une très bonne intention, de les qualifier par exemple de héros. Ils sont très facilement héroïsés, beaucoup plus que les athlètes olympiques. C'est pas des athlètes qui gagnent des médailles. Même s'ils perdent, c'est des héros. Mais pourquoi c'est des héros? Pourquoi ils seraient plus forts que d'autres? Pourquoi? C'est une même perception de la performance. Alors, on n'a pas les mêmes... Il y a des inégalités physiques de départ, certes, mais la vision du sport professionnel, a fortiori au niveau olympique, elle doit être la même. Il n'y a pas de raison que ce soit changé. Et je crois que là, il y a quelque chose qui s'est joué positivement pour ces Jeux, c'est que cette sur-héroïsation, elle a été remise en cause en disant « questionnons-nous sur les rapports qu'on a au corps, à la performance, et donc en fait à des athlètes qui, eux, ne se posent pas ces questions-là ». Donc on s'est, je pense, rapproché peut-être des perceptions de ce que pouvaient vivre les athlètes paralympiques.
On revient maintenant sur le sujet de l'inclusion. Et on l'a vu, pas uniquement au niveau médiatique, mais aussi, on peut le constater en termes d'accessibilité physique. Donc, quel constat peut-on faire pour les personnes en situation de handicap de manière générale?
Alors là, par contre, je pense que Paris, comme d'autres villes, est en bas du classement et qu'il y a des très, très, très grosses améliorations à apporter. On est extrêmement loin. Quand on regarde la part de personnes qui sont concernées par les questions de mobilité, et à la limite, j'ai envie de dire, ça concerne évidemment les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes qui sont à mobilité réduite au sens large, c'est-à-dire les personnes âgées avec des cannes, les familles avec des poussettes, les enfants petits. Quand on regarde aujourd'hui les mobilités dans les grandes métropoles occidentales, il y a un énorme sujet. Mais ça, c'est un sujet de société, c'est un sujet culturel, c'est un sujet urbain, c'est un sujet du quotidien, c'est un sujet d'aménagement. Et derrière, c'est aussi une question de choix collectif parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Je trouve qu'il y a un retard scandaleux, clairement, dans notre pays sur le sujet. Je crois qu'il y a des modèles très intéressants, notamment en Europe, dont on pourrait très vertueusement s'inspirer. Je pense tout simplement, je prends un exemple du quotidien, par exemple les transports en commun. Alors, il y a un gros travail qui a été fait sur les bus, par exemple, mais alors le métro, quand vous prenez le métro à Paris, moi je suis parisien, il y a extrêmement peu de stations qui sont dotées de, alors évidemment pas de stations, mais même d'escalators. Parfois c'est la croix et la bannière, notamment quand on doit faire des changements, quand on n'est pas un jeune homme d'1m90 de 35 ans, ça peut être très compliqué. Et là, je crois qu'il y a un impensé collectif qui en fait promeut de façon assez validiste quand même des caractéristiques physiques qui doivent permettre d'être de faire des labyrinthes dans le métro, tout ça avec quand même aussi beaucoup de stress. Donc je crois qu'il y a une vraie réflexion de fond à apporter parce qu'encore une fois, améliorer les capacités de mobilité et le quotidien des personnes en situation de handicap, c'est améliorer aussi le quotidien de millions et millions d'autres qui ne sont pas concernés par les situations de handicap, mais qui en fait, parfois de façon invisible, parfois pour des raisons peut-être moins de moindre échelle, ne présentent pas les mêmes caractéristiques physiques. Et en fait, les études le démontrent. D'ailleurs, quand on apporte des améliorations, notamment à l'espace urbain et à l'espace des mobilités, pour une typologie de personnes, tout le monde en bénéficie, y compris les personnes qui ne sont pas du tout concernées à l'origine parce que peut-être que le fameux jeune homme de 35 ans, il est aussi papa, il aura peut-être une poussette, il aura peut-être des gamins à faire marcher, etc. Donc c'est pour ça que j'insiste sur la notion de réflexion, enfin de changement culturel et de choix collectif sociétal.
Comme il y a des personnes qui sont en situation de handicap qui ne sont pas forcément qui ne sont pas impliquées par la mobilité réduite, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces personnes-là?
Alors, il y a des dispositifs qui existent, hein. Enfin, il n'y a pas rien qui est fait, ça existe. Pour autant, pareil, il y a un retard, à mon avis, qui est très fort. Il y a la partie du handicap, je dirais, physique, que ce soit visuel ou auditif. Donc là, de ce point de vue-là, il y a quand même des efforts qui sont faits, même si encore une fois, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a aussi la partie du handicap invisible, qui est pas moins violent parce que il produit une réponse sociale qui peut être encore plus vectrice de violence, soit par méconnaissance, soit parfois volontairement parce que on considère que c'est moins grave ou au contraire risible ou voilà. Donc on a encore un énorme progrès culturel à faire, ne serait-ce que de connaissance. Et de ce point de vue-là, je crois que la première chose à faire, si on s'interroge individuellement en tant que citoyen et en tant que être humain, je dirais, c'est peut-être d'essayer de comprendre, de connaître, ne serait-ce que les statistiques, par exemple. Personne ne sait combien de personnes sont concernées par une situation de handicap en France. Il y en a énormément. Statistiquement, on en connaît tous dans notre premier cercle. Et ça, on ne le sait pas toujours. Donc, en fait, c'est une forme de distanciation des personnes valides face à ces sujets-là. Et ça peut être vraiment source de souffrance pour les personnes en situation de handicap, notamment pour le handicap invisible. Je pense notamment au handicap mental, qui est aujourd'hui très en souffrance en France, notamment parce que la réponse, notamment médicale, elle est pas au niveau. Donc, encore une fois, c'est une question de choix collectif et de quels investissements financiers, mais pas que, on décide de mettre sur la table pour tenter de répondre au problème.
Parlons sur les différences structurelles de compréhension entre l'Allemagne et la France en matière de marginalisation, notamment. Quelles images différentes aussi de personnes en situation de handicap, à votre avis, existent entre les deux pays?
Franchement, je vois pas de différence majeure. Pour avoir habité dans les deux pays, pour très bien connaître les deux cultures, pour très bien parler deux langues, j'aimerais bien dire autre chose, mais je vois pas de différence majeure. Il y a peut-être une sensibilité un peu plus élevée en Allemagne sur le sujet. Qui est peut-être culturel, lié à des éléments historiques, etc. Très concrètement, dans le quotidien, je dirais, du fonctionnement des villes notamment, donc le quotidien urbain, des aménagements urbains, des transports, la différence, elle est quand même, moi, je la trouve pas très élevée, et je pense que c'est exactement les mêmes challenges. Mais ça nous interpelle peut-être sur un sujet qui est le niveau de décision sur ces sujets-là, et notamment le niveau européen. C'est là que je trouve qu'il y a peut-être des réponses européennes à apporter, dire ne serait-ce que du point de vue de la défense des droits des personnes en situation de handicap, qui aujourd'hui sont très clairement sous-représentées en termes de représentation d'intérêts, par exemple, avec une législation qui est aujourd'hui extrêmement faible sur un sujet dont l'Europe n'est quand même pas énormément saisie, alors même que ça pourrait devenir un des ferments de ce qu'on appelle l'Europe sociale. La protection de toutes et tous les citoyens, c'est quand même la base du ferment du pacte de l'Union européenne. Donc ça pourrait faire partie des sujets qui, en plus, sur le fond, sont quand même assez consensuels. Enfin, les marges de manœuvre financières sont à trouver, mais je trouve que là, il y aurait des coalitions intéressantes à réfléchir au niveau européen.
C'est une très belle ouverture vers la fin. Donc, pour faire la mise en perspective, en revenant sur les JO et aussi les Jeux paralympiques, qu'est-ce qu'on devrait, comment pourrait-on envisager des mesures pour une meilleure inclusion de personnes en situation de handicap et comment pourrait-on rendre le sport aussi plus inclusif?
Alors, il y a évidemment le premier enjeu, je l'ai beaucoup dit, mais il est culturel. Donc, c'est travailler sur les questions éducatives, sur la sensibilisation. Ça, c'est très fort. Nous, on le fait beaucoup chez FAS, notamment avec nos réseaux d'entreprises, etc., qui eux-mêmes sont des vecteurs d'influence, en tout cas de connaissances. Ça, c'est important. Dès l'école, dès le plus jeune âge, en fait, derrière, c'est aussi lutter contre les stéréotypes, lutter contre les discriminations et lutter contre une vision très monolithique de ce qu'est une société, de ce qu'est un être humain, de ce que doit être un être humain. Parce qu'en fait, en réalité, quand on parle d'inclusion, on parle de perception des différences et finalement de rapport à l'autre dans toute sa diversité. On a tous quelque chose en plus ou quelque chose en moins. Et je fais référence à un film qui est sorti en France récemment qui s'appelle Un petit truc en plus, qui a fait grand bruit parce que c'est un des premiers sur le sujet, avec d'ailleurs beaucoup de discrimination des acteurs, notamment au Festival de Cannes. C'est très symptomatique, mais la représentation culturelle, elle est importante. Après, au-delà de la représentation culturelle, moi, je pense que tous les acteurs sociaux, sociétaux, ont un rôle à jouer. Je pense que dans le sport, c'est le cas. Il y a la question de la diversification des équipes. Pourquoi uniquement des équipes valides ou de personnes en situation de handicap? Pourquoi pas penser davantage d'équipes mixtes? Pourquoi ne pas favoriser aussi cette inclusion-là dans les clubs? En faire un levier incitatif, par exemple l'État qui finance beaucoup les clubs sportifs ou les collectivités locales, pourquoi ne pas en faire un critère, par exemple, de sélection ou de d'accompagnement ou de financement, par exemple? Et un levier sur lequel nous, on travaille aussi beaucoup, qui est essentiel parce qu'on croit beaucoup que par l'emploi, on peut favoriser l'inclusion, c'est les dynamiques d'insertion dans l'emploi. Et pour ça, il faut travailler évidemment sur les représentations culturelles des employeurs. Donc là, nous, on fait un énorme travail avec les entreprises pour dire votre salarié en situation de handicap n'a pas moins de capacité que votre titulaire, enfin, sa salarié qui n'est pas handicapé. Bien au contraire, peut-être parce qu'il a eu à même, il a eu à connaître des situations qui peuvent être très difficiles et peut-être que ça produit aussi plus de résilience, peut-être que ça produit de la résistance, une capacité à se relever que peut-être d'autres ont moins développé. Et ça, il faut le voir à la fois dans les politiques de recrutement et dans, une fois que les salariés sont recrutés, dans les politiques d'inclusion dans l'entreprise pour éviter l'ostracisme, éviter les discriminations, lutter contre, évidemment, très proactivement, mais aussi pour faire de cette diversité, parce que c'est aussi une forme de diversité, une source de richesse pour l'entreprise. Parce que c'est démontré aussi que quand on est dans cette diversité dans l'entreprise, on en tire des bénéfices collectifs. Donc c'est aussi arriver à montrer à chacun que c'est la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, c'est vrai aussi au sein de l'entreprise et de toutes les structures sociales.
Unifié dans la diversité, je crois que c'est une belle pointe de fin. Donc merci beaucoup pour cet entretien et pour ces perspectives très très importantes qu'on va, je l'espère, aussi intégrer dans notre quotidien dans le futur. Merci également à toute l'équipe de podcast et plus particulièrement à Dani Larao, Kala Shepe et Lars Posselman dans la rédaction. Au montage, Dani Larao. Bis bald et à bientôt.